clash avec un V. Dans la place. Et ce soir, on représente pour tous les MC du Warren. Pour un fight jungle massif dans ta face. T'es du classe.
Écoutez, excentrique est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que excentrique souvent signifie avec une petite pointe de mauvais goût. Excentrique, non. Non, original plutôt, quelque chose qui sort de l'ordinaire.
Radio Campus sur 88.3, ça me rend folle, ça me rend folle.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
On va pas la refaire celle-là.
On n'a pas parlé au-dessus, c'est bon, tout va bien.
Bonjour.
Le jingle juste avant est génial.
Radio Campus.
Me rend folle. Ce générique
vrai,
est absolument génial.
Faut le garder. Hein.
Faut le garder.
Coucou. C'est salut, midi salut. Sur Radio Campus Orléans et, ben oui. Et vous êtes sur Écoute à Fac et je suis avec Lucas et
coucou.
Lorraine.
Et on est fou.
Et on est fou.
On est folle, Radio Campus nous rend folle. On est,
exactement.
On est folle.
Comment allez-vous ?
Eh ben on est folle. Genre
on
vraiment,
est folle.
Ce midi, c'est le thème, on est au taquet toujours, toujours dans Écoute à Fac.
Très bien. Aujourd'hui dans le programme, on a l'agenda. Est-ce que c'est toujours l'agenda du bouillon ?
Tout à fait.
Bah
ok.
Oui,
bah, du coup, on a l'agenda du bouillon. Une interview de Lucas avec Françoise Vittel.
On parlera d'addiction, yes. de sevrage, etc. C'est un peu le thème de la semaine parce que demain, on reçoit aussi le SSU. Mm-hmm.
On va découvrir un peu le monde d'addiction.
Voilà, puis on aura deux points de vue, donc c'est toujours intéressant.
Yes. Ensuite, on aura une interview also de Saint Solide. T'as entendu also?
Also.
J'ai dit
arrête
tout
de mélanger
also.
Les langues. On est. Tu me désespères, Fatima.
Bon. Une interview de Sainte Solite.
Sainte Soline.
Soline, pardon. Sainte
Soline.
Oui. Et bien sûr, toujours de la bonne musique.
La bonne musique.
Campus, hein.
Peut-être Hélène qui viendra. On est mardi.
Ah oui, pour les insolites.
Pour les infos insolites à la fin. On n'a pas eu de nouvelles, mais elle débarque toujours un peu à l'improvise.
On
donc,
espère.
J'espère.
Yes,
j'espère quelques infos insolites d'Hélène. Et puis oui, tout, comme d'habitude, toujours la musique.
Oui. Et tout de suite, c'est l'agenda.
Écoute tout à fuck.
L'agenda.
Tu le veux celui-là ?
Qu'est-ce qu'on a dans le programme ?
Ce que je veux, plein de choses. Je veux du grand bain et encore du festival Le Grand Bain jusqu'à la fin du mois de mai. Et ce soir, on laisse encore une fois la place aux étudiants pour l'UEO Théâtre Contemporain de Création. Donc en fait, les étudiants vont monter sur les planches du Bouillon et nous présenter, en lien avec la metteuse en scène Delphine Zink, une création en fait. Alors ils ont à la fois travaillé des pièces de Shakespeare, mais ils ont aussi en fait travaillé autour des thématiques sur la vulnérabilité, l'orgueil. Donc voilà, il va y avoir toute une création théâtrale ce soir présentée à 20h30 au Bouillon. Comme d'hab, c'est gratuit. Et ça va être vraiment sympa. Et donc c'est dirigé par Andrés Merchant, qui est à la tête de l'UEO depuis très 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 longtemps. Et c'est sa dernière. The Last One, donc ça va être la grosse fête ce soir.
De la dernière de sa vie ?
Bah, part à la retraite.
Oh,
et oui.
Wow.
C'est son tour d'honneur.
Yes.
Du coup, oui, ça sent la grosse fête et la belle création théâtrale ce soir avec les étudiants.
Eh bah, très bien.
Donc, c'est la première chose. Et demain, on part sur du cinéma avec Parasite. Parasite 2, que je ne mange pas son nom, Bong Joon-ho, qui est un film du coup projeté par la saison tributaire. Okay. Ça sera à 18h, là aussi c'est gratuit. Et Lucas, tu voulais nous parler du film ?
Oui, parce qu'on parlait juste avant off, toi tu ne l'as pas vu, moi je l'ai vu.
Tout à fait.
Je l'ai vu pour sa sortie, je crois, du coup, Palme d'Or 2020, il me semble, 2019
il
ou 2020.
Il est trop fort.
J'essaye. dans ces années-là. C'est le septième film, je crois, de Bong Joon-ho, qui a tout raflé. Hein, gros succès critique, succès public.
Consécration, ouais, c'est ce que j'ai vu.
Consécration, absolument. Juste après Snowpiercer, qui avait très bien marché aussi. Et puis le film en lui-même est absolument fabuleux. Une histoire dingue de parasites humaines, de humainement et socialement. C'est une critique sociale du coup coréenne, enfin sud-coréenne, mais qui touche tout le monde. Et c'est un chef-d'œuvre. Du coup, allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Tu m'as donné grave envie de l'aider
bien. Même pour ceux qui l'ont vu.
J'avais aucun intérêt.
Je sais pas, ceux qui l'ont vu, qui l'ont oublié, malheureusement. L'affront de l'oublier. Faut vraiment revoir ce film. Mmh. Et puis tout l'ensemble graphique.
Il est passionné.
Mais ce film est passionnant. J'adore. Ce film est vraiment passionnant en tout point. Les personnages sont écrits d'une manière absolument formidable. Je te dis graphiquement, photographiquement, la photographie est magnifique. Il y a des plans de rue vraiment. Vraiment de urbaine.
Yes.
Alors je sais plus la ville, mais de Corée du Sud, du coup j'imagine, mais qui est fantastique, où tout s'entrecroise. On a des rues, des escaliers,
s'il vous plaît,
c'est l'occasion. 18h ce soir, en plus c'est gratuit, donc là franchement il a hyper bien vendu le truc.
Oui.
Je
franchement c'est un génie.
merci
Eh bien merci, voilà, ça sera tout pour cette semaine et il y en aura encore la semaine prochaine.
Bien sûr.
Donc on la refera la semaine prochaine.
Yes. Eh bien à la semaine prochaine, je vous lance Grower de Georges Siccioli.
Il faudrait demander à Marina, qui est une de nos bénévoles, qui vient d'aller en Italie.
En Italie, oui,
elle pourrait peut-être nous aider.
Elle est allée un week-end en Italie, on va lui demander.
Elle connaît tout. C'est forcément.
Et bah, bonne écoute.
Et bah, à tout de suite.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et en invité, nous recevons Françoise Vitel aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Qui vient nous parler des centres addict-free, d'addiction. On va parler tout ça, de sevrage, etc.
Tout à fait.
Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter les centres addict-free, parce qu'il y en a plusieurs en France?
Oui, on est une quarantaine de centres qui sont ouverts sur toute la France. On a l'avantage d'avoir sur le site une carte répertoriant tous les sites à différents endroits où ils sont situés. Et on évolue dans le bien-être et l'accompagnement des gens par rapport au sevrage.
Alors, vous avez notamment une technologie, c'est la technologie au laser.
Il n'y a pas que ce laser, il y a aussi, on est multitechnique. On utilise en partie le laser, c'est un laser soft qu'on utilise généralement en acupuncture pour les enfants, pour éviter justement ce phénomène de piqûre. Donc, c'est tout à fait indolore et qui permet de traiter différents points à différents endroits.
Alors, ces centres addict-free, comment ils ont existé? Depuis quand ils existent et...
Ça fait à peu près 13 ans que Karine Simon, la fondatrice des centres, a mis en place cette multitechnique. Elle est infirmière et libérale et naturopathe. Et elle a mis en place ce dispositif pour avoir passé le biais de l'addiction au tabac. Et aussi du sucre.
Oui, parce que vous avez trois points majeurs, stop tabac, stop sucre et stop stress.
Oui.
Comment la technologie, vos technologies, vos multi-technologies font pour... Parce qu'on a des promesses, entre guillemets, gérer le sucre en une séance, gérer le tabac, arrêter facilement et rapidement. Comment cette promesse, vous pouvez la tenir?
Alors, on travaille à la fois sur le plan psychologique et physique, sur le manque physique et le manque psychique, chose qui est très importante, qu'on ne peut pas dissocier, parce que bien souvent, c'est ce qui donne le résultat négatif des sevrages. Il faut savoir aussi que un sevrage, il faut qu'il soit décidé par la personne qui veut le faire. Si la personne n'a pas le déclic, au final, le sevrage sera un échec.
Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs et auditrices, nous rappeler comment on détecte une addiction? Qu'est-ce que c'est une addiction? Parce que des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Parce que les addictions, ça paraît être un gros mot. Être addict.
Ah oui, c'est.
Mais
c'est...
On n'est pas addict qu'à des drogues dures. On
Absolument
est addict à plein de choses.
On peut être addict aux jeux vidéo, par exemple. On peut être addict à la nourriture en règle générale, pas forcément au sucre ajouté. Il faut savoir que l'addiction vient d'un petit cerveau qui, au fil du temps, se dit pour me réconforter, je vais prendre telle ou telle chose, soit de la nourriture, soit de la drogue, de l'alcool, du tabac, pour me déstresser, pour dire je suis bien, ça me réconforte. Et au final, au fil du temps, on crée des manques. Et c'est ce manque qui entraîne l'addiction.
Et pour vous, votre centre, comment vous fonctionnez? Comment vous détectez, entre guillemets, les personnes qui ont besoin de vous? Comment vous faites un choix? Est-ce que vous avez trop de choix, entre guillemets, trop de patients qui viennent vous voir? Comment vous gérez tout?
Alors,
ça
on a tout un panel informatique qui travaille avec mes collaborateurs. Donc, les gens se renseignent, on fait de l'info sur secteur et également national, sur tous les réseaux sociaux également, beaucoup sur Facebook, Instagram, Google Business, où là, vraiment, on déploie un maximum de méthodes et d'outils pour pouvoir essayer d'aller aider un maximum de gens.
Est-ce que avant de passer à votre méthode, il y a d'autres points à aborder avant de vraiment commencer, je sais pas, une thérapie chez vous?
Alors, on ne peut pas appeler ça une thérapie, on est là, les gens, on est en complémentarité avec la médecine traditionnelle. Je dirais qu'en fonction de la médecine traditionnelle, des fois, les points ne sont pas suffisamment exploités, et tous les points en même temps, et du coup, ce que... ce qui est au niveau réseau, réseau médical, c'est pas suffisant. Donc, on est là aussi pour écouter les patients, les orienter. Et vraiment, on a des accompagnements très personnalisés.
Et c'est en ça que votre méthode, entre guillemets, est nouvelle ?
Tout à fait. Parce qu'on est vraiment multi-technique, on n'a pas qu'une seule technique à la fois. Ne serait-ce de sauter, vous parliez de laser tout à l'heure, on a d'autres personnes qui font les lasers. Mais nous, en plus, on a autre chose. On travaille sur vraiment différents points et c'est ce qui amène à notre réussite.
Et justement, dans les pratiquants qui interviennent dans vos centres, est-ce que c'est quoi ? C'est des médecins, des infirmiers, infirmières ?
Alors non, c'est vraiment des partenariats, des partenaires vraiment formés à notre technique et qui a été créé par la madame Simon. Et du fait que on est vraiment des spécialistes d'addict-free.
Vous, par exemple, quel a été votre parcours pour rentrer en tant que praticienne à Addict Free ?
Alors, j'ai connu Addict Free par le biais, justement, d'un sevrage du sucre. Parce que j'étais vraiment très addict au sucre. Et au final, j'ai fait cette méthode, puisque je n'avais pas trouvé jusqu'à maintenant la technique et le moyen de me sevrer de ce... de cette drogue dure, entre guillemets, parce que le sucre, c'est pire que de la drogue. La cocaïne, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle le sucre, la poudre blanche. Et au final, j'ai, par mon parcours de professionnel, j'ai voulu aller aider aussi les autres à se sevrer, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin. Pas spécialement ceux qui ont besoin d'addiction au sucre, mais les gens qui sont diabétiques, les gens qui ont des problèmes cardiaques, les gens... Voilà, il y a vraiment au niveau de la médecine générale un panel, entre guillemets, de personnes à aider.
Et vous arrivez, avec tous vos centres, à trouver une deuxième partie à cette médecine générale et à avoir un apport assez...
Oui, alors on a une taux de réussite entre 83 et 87% de réussite sur nos sevrages. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de maximum de se focaliser sur les 13 à 17% qui ne fonctionnent pas et on essaye de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas et pour essayer d'aller attendre un maximum de pourcentage.
Merci. Moi, je vais juste rappeler le site national drogue-info-service.fr et leur numéro 0823 13 13. C'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24 et c'est gratuit. Est-ce que vous voulez rappeler le site
Alors,
site
nous, c'est www.addictfree.com et le numéro de téléphone, c'est le 09 70 70 90 87.
Merci beaucoup, Françoise Vittel, d'être passée à l'antenne de Radio Campus Orléans et dans Écoute ta fac.
Merci.
Merci encore une fois. Je vous lance I Think to Find Peace of Mind de Lefto Early Bird. Thank you.
Thank you. hyper violent comme méthode.
Et bonjour Anna.
Bonjour.
Première phrase, c'est super violent comme méthode. Bienvenue à Radio Campus à Orléans. Voilà, tu viens de signer, ta phrase de bienvenue.
Ah, c'était quoi ?
Eh bien, je sais pas pourquoi t'as dit ça en bleu.
C'est
parce
hyper violent.
En mettant la musique.
Ah oui.
Ah, oui. Ah bah oui, bah, moi je me fais fermer violent. Ma bouche. Mais grand respect à Fatine qui.
Merci.
Qui me fait taire.
Ok. Voilà. Okay. Et bah du coup on accueille.
Mais oui, parce qu'on parle, mais.
Notre nouvelle stagiaire.
Qui va me remplacer, c'est ça ?
Vous
me remplacez déjà ?
Oui. Ouais. Elle est ma super copine.
Et moi, je suis plus ton super meilleur copain.
Ah non. Oh. Bah, tu m'abandonnes.
Bah.
Ouais. C'est vrai.
Bah ouais. Là, ouais. C'est un peu. Mais je reviendrai.
Oh, quand ?
Quelques fois.
Ouais. Ouais.
Non, mais d'abord, je pars en vacances. Mm-hmm. Parce que j'ai besoin de vacances.
Oui.
Et après, je reviendrai.
D'accord.
Peut-être.
D'accord, oui. Sûrement. Et moi, je vais t'attendre.
Mais tu vas m'attendre, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, Anna, présente-toi.
Bah, enchantée. Je m'appelle Anna. Je suis en stage à Radio Campus, là, pour 3 semaines.
Yes.
Donc, super. Hein. Pour l'instant, ouais. Ça se passe bien.
Petit review sur la radio.
Bah ouais, là c'est la... Quoique non, c'est la deuxième fois que je fais de la radio, mais alors c'était pas... Petite anecdote, c'était pas une expérience.
Ah ouais ?
Non, si, ça s'était bien passé, mais on avait entendu... donc mon audio, c'était au lycée, c'était passé dans l'amphi, et après on m'avait dit que ma voix passait super mal à la radio, donc c'était ça la petite anecdote.
Aïe.
Pas du tout.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux nous faire un point historique sur Radio Campus Orléans, sa création ?
Non, je rigole.
Entretien.
Même moi, je dirais... Bah, ça a 30 ans, mais...
Oui, c'est voilà. L'année
mais c'est tout.
Ans,
c'est...
Si, on pourrait dire... Je pense que je pourrais dire quelques créateurs.
Moi, je peux dire rien. Rien du tout. C'est tout.
Mais voilà.
Mais je connais.
Cool. Comment t'as découvert
Radio Campus au collège. Parce que donc, j'étais à Orléans et on avait un de nos professeurs qui était bénévole ici.
Trop bien.
Waouh. Voilà.
Mais c'est trop bien d'avoir un professeur qui fait de la radio.
Ouais, moi, ça s'était un peu propagé comme rumeur.
Et surtout Radio Campus Orléans.
Ouais.
Pourquoi surtout Radio Campus
Orléans ? Surtout, ouais, avoir un professeur qui est bénévole sur Radio Campus Orléans.
Je pensais que c'était exceptionnel. Bah oui, c'est exceptionnel.
Ah oui. Qu'est-ce que t'as ?
Tu veux te battre ? On va se battre à l'antenne.
Ouais.
Oh, on va t'écrire. Podcast. Et ouais, et Anna a fait l'arbitre et elle décrit tout ce qui se passe. Wow, ouais. Elle vient de lui mettre un uppercut.
Qui
Fatine qui renvoie un coup de poing dans le ventre.
Tout de suite, on passe à notre deuxième interview.
Yes.
La manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline contre les méga-bassines fait déjà date dans l'histoire des luttes écologiques et sociales. À travers des portraits de personnes de 17 à 29 ans, le livre donne à voir les parcours qui les ont menés à Sainte-Soline, ce qu'ils y ont éprouvé et les manières dont elles envisagent désormais leur place dans la société. Le récit se mêle au point de vue d'autres militants et militantes, artistes ou chercheurs. PCB a pu interviewer Mathias Lenzi et Benoît Leroux, co-auteurs du livre « Avoir 20 ans » à Sainte-Soline, pour revenir sur les manifestations écologistes qui ont eu lieu et sur les conséquences qu'elles ont eues. Tout ça, vous allez le découvrir dans cette deuxième partie de notre émission. Bonne écoute.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour une rapide présentation, Benoît Leroux, vous êtes enseignant chercheur en sociologie du monde agricole et Mathias Lenzi, vous êtes enseignant plutôt sur la question des médias. Vous êtes travaillé tous les deux à l'Université de Poitiers et on vous accueille aujourd'hui puisque vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « Avoir 20 ans à Sainte-Soline » avec le collectif du Loriot. Pourquoi est-ce que le choix a été fait de sortir cet ouvrage aujourd'hui ?
Alors, pourquoi aujourd'hui on avait effectivement assez tôt l'ambition de sortir cet ouvrage pour les un an hein, de cette manifestation historique et d'ailleurs de ces deux jours de manifestations et d'événements autour de la lutte contre les méga-bassines. Peut-être que je vais quand même revenir sur la genèse de l'ouvrage, sur pourquoi on a eu envie de faire un ouvrage et pourquoi en fait au début on n'avait pas tellement envie d'en faire un ouvrage, paradoxalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est un collectif de 6 enseignants chercheurs hein, à Poitiers, et on a été particulièrement investi hein, puisqu'on est allé à Sainte-Soline nous-mêmes. Et en rentrant de Sainte-Soline, que ce soit le samedi ou le dimanche, on a rapidement voulu partager ce qu'on avait vécu avec les étudiants. Parce que particulièrement, plusieurs étudiants étaient investis hein, dans cette lutte, aussi dans la lutte contre la réforme des retraites, hein, puisque ça s'imbriquait. Et le lundi, on organise un débriefing avec des étudiants. Il y a une vingtaine d'étudiants qui nous rejoignent. Là, on n'a absolument pas l'ambition de faire un ouvrage. Hein. C'était vraiment de partager collectivement. Et on est marqué par les témoignages que ces jeunes étudiants nous livrent, et en particulier sur la deuxième souffrance qu'ils ont vécue au-delà de la manifestation, la souffrance qu'ils ont vécue due au traitement médiatique de cet événement-là. Tant par les images qu'ils ont pu voir, tant par les discours qui ont été tenus sur notamment les chaînes d'information en continu, mais aussi sur la manière dont leurs amis, leurs familles ont perçu la manifestation à travers les médias, ce qui a empêché la possibilité des fois d'en parler avec leurs proches, et donc de penser les plaies hein, qui pouvaient exister, physiques ou aussi morales, psychiques. Et donc assez rapidement, on a voulu construire un contre-récit, rétablir certains faits, les documenter. Et donc assez rapidement, on a eu l'ambition de faire un ouvrage qui récolte les témoignages de jeunes qui étaient présents, mais aussi, il y a aussi des textes d'intervention qui vont éclairer ce qui s'est passé ce jour-là et en quoi ce jour et ces deux jours, d'ailleurs je le disais au début de l'entretien, sont peut-être historiques hein, dans la lutte écologiste et sociale.
Et on se souvient effectivement qu'il y a eu tout un moment où les médias ont documenté ça largement après, même d'autres médias un peu plus alternatifs que les médias mainstream qui ont effectivement criminalisé énormément et plutôt porté la parole que portait le gouvernement, etc. Il y a eu carrément des moments où la police a refusé l'accès de certains centres de soins médicaux, d'ambulances qui venaient chercher des personnes, etc. Il y a eu des milliers de grenades de désencerclement qui ont été lancées. Il est toujours bon de rappeler que ces grenades de désencerclement sont des armes de guerre. Quand on en voit le titre du livre, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est quand même compliqué de ne pas avoir une référence ici à la phrase d'Emmanuel Macron en 2021. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ce titre-là, comment est-ce que vous l'avez apporté ?
Avoir 20 ans à Sainte-Soline, on ne pensait pas à Emmanuel Macron, sincèrement, parce qu'on pense à René Vautier, qui est un cinéaste, qui a fait un film sur les appelés d'Algérie, justement dans les années de guerre d'Algérie. Hein. Le film est postérieur à la guerre, hein, juste à la sortie de la guerre. Toujours est-il, ce titre, il fait référence plutôt à cette situation très compliquée dans laquelle se retrouvent des appelés contingents français dans un conflit terrible où ils sont amenés à faire le sale boulot sur place. Alors, toute proportion gardée, on n'est pas dans les mêmes du tout dans les mêmes situations. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui aussi, dans le film, hein, se révoltent par rapport à une institution, par rapport à un ordre établi hein, qui s'impose à eux. Notamment dans le film, il y a un jeune qui se politise hein, sur place et qui commence à prendre ses distances par rapport à ce qu'on lui impose. Et en fait, nous, ce qui nous a intéressé à travers ce... On a fait un choix hein, de se centrer sur les jeunes parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans ces mouvements, c'est très... très, très, très hétérogène, c'est multigénérationnel, mais je pense que la force de ce mouvement écologique qui se constitue depuis plusieurs années, c'est la présence de ces jeunes qui viennent ici avec leur bagage, qui viennent ici avec leur force, qui viennent ici aussi se socialiser politiquement, se socialiser à la lutte hein, écologique avec toute la variété de ces modalités. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement la confrontation violente, hein. Comme le disait Mathias, hein. C'est comme vous le disiez aussi, ça cache en fait toutes les manières dont cette jeunesse manifeste son mécontentement par rapport aux politiques publiques concernant l'environnement, l'aménagement du territoire et plus largement l'avenir qu'on a en commun, pour reprendre une expression d'un autre candidat à la présidentielle.
La jeunesse semble particulièrement engagée dans la lutte aujourd'hui de manière générale. Comment est-ce que vous la percevez, vous, au cours de ces témoignages, cette jeunesse, cet engagement? Parce qu'on rappelle que Sainte-Soline, à la base, cette problématique-là, c'est l'accaparement de, par quelques propriétaires terriens de l'eau, en fait, qui est une denrée et qui devient de plus en plus rare aujourd'hui. Comment est-ce que vous, vous la percevez, cette politisation des jeunes, enfin des jeunes personnes, en tout cas des personnes qui, que vous avez interrogées dans votre livre?
Elle est multiple, hein. Peut-être quelques éléments de réponse. D'abord, déjà, en fait, pour avoir fait une trentaine d'entretiens avec ces jeunesses, en fait, ces jeunes, on s'aperçoit qu'ils ont des origines et des parcours sociaux assez variés. Et ce faisant, tout le monde n'a pas les mêmes dispositions à comprendre les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux aujourd'hui. On a, parmi ces enquêtés, des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont une conscience politique assez fine, hein, des enjeux et des politiques qui sont mises en place. D'autres sont beaucoup moins dotés scolairement ou n'ont pas cette ouverture sur la connaissance aussi des politiques publiques et des enjeux environnementaux. Ils se forment sur le terrain, si j'ose dire, hein, dans les confrontations, dans les réunions de préparation. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est que l'importance de ces mouvements, hein, c'est des lieux en fait de socialisation politique à la prise de conscience aussi des enjeux aujourd'hui. Hein. On pourrait croire que certains y vont pour se confronter aux forces de l'ordre, d'autres. Mais en fait, on s'aperçoit concrètement qu'ils ont globalement une bonne conscience des enjeux écologiques et sociaux qui sont derrière cette lutte des méga-bassines. Et ce faisant, ils enrichissent aussi toute leur palette, hein, de connaissances sur les autres enjeux. Parce que vous le savez bien, il y a des luttes en ce moment tenues contre la 69, d'autres projets qui sont l'objet de critiques sur d'autres territoires.
Et en face, malheureusement, la seule réponse qui semble arriver, notamment de l'État, c'est la répression et la criminalisation de la lutte. On en parlait tout à l'heure, la question des éco-terroristes, etc. Comment est-ce que vous vous sentez, ces jeunes en l'occurrence, face à la répression policière et à cette violence?
Ben, on y a été directement confronté dans la construction même de l'ouvrage. En tant que sociologue, quand on fait des entretiens, on garantit à nous enquêter l'anonymat. Ce qui favorise bien souvent le fait qu'il se livre, hein, et qu'il participe au travail d'enquête. Donc là, on a évidemment proposé l'anonymat, mais en plus, on avait beaucoup d'enquêtés qui étaient particulièrement inquiets des répressions possibles ultérieures à la sortie du livre, etc. Des représailles judiciaires, du simple fait d'avoir participé à une manifestation. Hein, il faut le rappeler, c'est ça qui y a derrière. Sans même avoir commis des faits caractérisés, etc. Hein. C'est le simple fait d'avoir manifesté maintenant est criminalisé. Donc on a dû prendre énormément de précautions, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. On a fait relire intégralement les chapitres, hein, qu'on a écrits par nos enquêtés pour valider ou non la publication avec eux. Donc c'est vrai que, et pour les collègues qui sont les plus expérimentés, c'est une première. D'habitude, les enquêtés ne sont pas aussi précautionneux. Hein. Donc effectivement, il y a une conscience au sein des jeunes qui sont engagés de cet enjeu-là. Mais peut-être parce que aussi, hein, c'est des jeunes, évidemment. Donc ils ont toute leur vie devant eux, a priori, et on l'espère. Et donc ils ne veulent pas, si vous voulez, insulter l'avenir. Et c'est normal aussi, hein, c'est très compréhensible. Et c'est lié, je pense, à cette question, finalement, du climat, de l'environnement. Hein. Ça fait partie de ces luttes-là, puisque, voilà, ils luttent pour leur avenir. Hein. Et donc, nous, on a particulièrement respecté ça. Donc, ils sont bien conscients de la montée de la répression policière. Et ils en sont inquiets, pour la plupart, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on a bien pu noter.
Oui, on se souvient notamment de S, dont nous tairons le nom, qui a été blessé, enfin qui a failli mourir concrètement, dont le pronostic vital a été engagé très rapidement après avoir été mutilé par la police. Merci beaucoup Benoît Leroux et Mathias Lenzi d'être venus ce matin pour nous raconter cette histoire, nous raconter cet ouvrage. Je rappelle donc Avoir 20 ans à Sainte-Soline est sorti il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup à vous d'être venus.
Merci. Merci à vous. نفح النار خيمة جدود.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3. C'était El Jamel Kbira de Aziza Ibrahim.
Trop bien cet album.
Yes.
Vraiment, il est trop cool.
Trop beau.
Genre, c'est trop bonne découverte et tout. Donc, moi, j'adore.
Et il vient de sortir.
Il vient de sortir. Enfin, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais mm-hmm. C'est sa dernière sortie, 2024. Fin février, donc c'est récent.
Yes.
Je ne sais pas s'il est sorti en format physique, mais en tout cas, il est sur les plateformes. Je vous le reconseille. Je vous le recommande, pardon.
C'est beau, c'est beau. J'aime bien les you-you.
Ouais, c'est cool. Mais même l'atmosphère de l'album est assez prenante. Donc, trop bien.
Yes, c'est vrai. Du coup, tu veux parler de ton week-end ?
Bah, est-ce qu'on parle de ce qu'on a fait ce week-end ?
Si tu veux. Qu'est-ce que t'as fait ?
Qu'est-ce que t'as fait ? Toi, qu'est-ce que t'as fait ? On commence.
Moi, je suis partie à Paris voir ma famille.
Ah, un truc de spécial que t'as fait ?
Truc de spécial, un tour ? Non, de ce
t'as
week-end.
T'as fait le marathon ?
Non, malheureusement. Je savais pas qu'il y avait un marathon. Mais non, j'ai vu ma famille, enfin mes amis qui sont aussi ma famille.
Comment ça ? Amis, famille ?
Oui, amis proches, très proches, ouais. Qu'on considère comme famille.
Ah, genre, ouais. Genre toi
moi. Toi, moi.
Et
toi ?
On est comme frères et sœurs.
T'es ma famille.
Allez, t'es mon sang.
C'est vrai, hein.
T'es mon
sang. Oui, t'es mon roya. Mais ouais, on a fait un ftour.
C'est quoi ?
Ftour, ça veut dire déjeuner, petit déjeuner. On a mangé. C'est ce qu'on fait pendant le ramadan. Et oui, c'est tout. C'était mon week-end. C'est pas mal, c'est très bien. Incroyable.
Est-ce que tu veux parler de ton week-end, Anna ? Si tu t'en souviens, parce que t'avais l'air de pas trop t'en souvenir.
C'est vrai. Eh bien, écoute, j'ai déménagé mes affaires de Paris à Orléans.
Okay.
Ah oui, c'est pas rien quand même.
Stage, voilà.
C'est pas rien.
Et puis, voilà.
Ça a été comment ?
Ça s'est bien passé.
Okay.
Mes parents sont venus me chercher, donc...
C'est bien.
C'est cool.
Yes. Bah, elle se préparait de venir à Radio.
C'est ça.
Radio
Campus. C'est mieux de se préparer.
Bah
parce
oui.
Que...
C'est bien.
Voilà. Voilà, c'est bien. C'est le mot du...
Et toi, Lucas, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?
Chaque fois, tu vends le truc comme si j'avais fait un week-end de...
Mais c'est vrai.
Si, quand même.
Ouais.
Samedi soir, je suis allé à l'Astrolabe pour voir Johnny Jane et Philemon. C'était très, très cool, Philemon, la première partie, que je ne connaissais pas du tout. Johnny Jane, je connaissais que de loin. C'était très cool de le voir en concert. De le revoir à Orléans parce que lui il revenait à Orléans parce qu'il est orléanais. C'était marrant, il a fait des petits extras en parlant de sa famille à Orléans et tout.
Ouais.
Il disait c'est presque un concert familial tellement pour moi c'est la famille Orléans, donc c'était trop bien. Je suis pas
mignon.
Resté en entier parce que j'étais très fatigué.
Toi fatigué,
ah bah resté oui avec les week-ends que j'enchaîne c'est
ouais.
faut arrêter de faire la fête.
Ouais.
J'ai dormi tout le dimanche, voilà, donc là dimanche je peux pas
chance.
Dire la chance.
La chance.
Là c'est un peu moins festif, mais c'est tout aussi rempli. J'ai fait que dormir. Mais c'était très cool. Et j'ai une recommandation visionnage à vous faire qu'Alexia m'a elle-même fait et recommandé.
Oui.
C'est une mini-série. Sur Netflix, c'est Trainwreck Woodstock 99. C'est un documentaire qui retrace les 3 jours de Woodstock 99. C'est la déchéance. C'est la déchéance. Franchement, regardez-le et vous verrez comment les hommes et femmes, mais surtout les hommes, peuvent être d'une violence extrême quand ils sont en groupe, en meute, avec de la musique, etc. Donc, avec Alexia, du coup, quand on faisait nos recherches en même temps, on a découvert qu'il y a eu un Woodstock aussi, 94, je crois. Donc, du coup, il y a eu 3 Woodstock. Hein, je rappelle Woodstock 69, qui avait lancé tout ça avec le Flower Power, le Peace and Love, etc. Là, on était moins dans cet esprit-là, parce que c'est le même créateur de Woodstock 99, de Woodstock 69, qui a fait les autres éditions. Donc, il était un peu dans le même esprit, même si c'était... Enfin, vraiment, quand on regarde ça, on se dit, mais comment... Tout ça a pu exister.
Ouais.
Comment un festival peut aussi mal terminer ? Parce que Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Et le festival a fini en feu. En feu.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient contents ou pas ?
Contents et drogués.
Ah oui,
tu apprends que dans ce genre de festival,
ouais.
Et là, c'est vraiment l'époque 90-99 où du coup, il y a une explosion de la musique, du métal, etc., du rap aussi, et des drogues. Des drogues dures. Ils étaient surexcités. Ouais. Je pense que c'est le mot qui est plus représentatif. Oui. Mais vraiment, tu as des jeunes qui n'ont même pas la majorité et qui font des trucs de fou. Et il y a aussi eu des excès qui sont beaucoup moins marrants. Mm-hmm. Donc je ne dis pas tout, mais qui sont beaucoup moins marrants et qui sont quand même représentatifs d'une certaine, je ne vais pas dire génération, mais d'une certaine vision de la masculinité qui fait assez peur. On voit des hommes complètement acharnés et c'est assez vomitif très clairement de voir que la nature humaine est masculine comme et comme ça, et c'était assez flippant. Complètement. Ouais. Mais on va passer à un point positif parce que qui est là? Hélène
est là. Tu veux dire bonjour?
Mais elle veut pas dire bonjour.
Mais dis bonjour.
Elle se cache? Non. Tu veux pas dire bonjour ?
Bonjour.
Et voilà, le traditionnel. Bonjour d'Hélène, comment tu vas ?
Ça va.
t'es dans l'esprit aussi Flower Power, là ? Tout va bien, tout va bien, peace.
Mais tu penses quoi de ces festivals-là qui
dégénèrent ?
Est-ce que tu connaissais Woodstock 99 ?
Non.
Et bah, si t'as Netflix.
Je suis désolé, moi je suis resté à 69.
T'es resté dans l'esprit de 69. Mais c'est le même créateur, donc si jamais tu. Voilà, c'est le seul lien qui existe. Parce que sinon, à part la musique et le créateur, il n'y a rien de coexistant au truc, quoi. Enfin, c'est deux esprits totalement différents de consommation de musique. Bon, il y avait déjà.
De consommation, tout court.
Tout court.
oui.
À Woodstock 69, quand même. Mais là, c'était. Enfin, dans le Woodstock 99, c'est pas l'esprit gentil du tout. Enfin, c'est d'une violence quand les festivals.
Bah, c'est ben dommage.
Quand on s'en prendre au propre, parce que je sais pas si vous voyez, mais dans les festivals, il y a la grande scène et puis un peu au milieu, t'as la tour de production. Là, ils en sont à détruire la tour de production tellement ils sont acharnés. Enfin bref, c'est un délire ce documentaire. C'est sur 3 épisodes, ça dure à peine, ça fait 145 minutes les 3 épisodes, donc c'est pas très long.
Ouais.
Mais ça fait du coup.
Et c'est Woodstock.
C'est Trainwreck.
Ah ok.
Trainwreck. Woodstock 99. Hein, tu mets Woodstock 99, je pense que tu le.
C'est sur Netflix.
C'est sur Netflix. Donc du coup mini série, 3 épisodes.
Ça vient de sortir.
Non. 2022.
Non. 2022, ok.
Mais je viens de le découvrir, c'est Alexia qui me l'a recommandé.
Ouais.
Et on a regardé le premier épisode ensemble, c'était déjà une folie. Et j'ai continué tout seul. Et c'est une folie de regarder ça. Comment ça se crée, tout ça. C'est un gros délire.
Et on nous dit que cette génération est, je sais pas, plus compliquée que les anciennes générations, plus.
Non, je pense pas, mais parce que je pense que si tu veux faire un point là-dessus, c'est que nous, il y a eu un. Si tu regardes le documentaire, il y a un rapport entre le rapport justement entre les hommes et les femmes, qui est un point abordé et qui est, je le disais juste avant, qu'il y a certains points qui sont absolument dégueulasses.
Mm-hmm.
Je pense qu'il n'y aurait pas forcément ce point de vue-là et cette violence aujourd'hui. J'espère, en tout cas.
Oui.
Mais même sous drogue et sous excitation musicale, etc., je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, il y aurait ces violences malgré. Malgré tout un barème de choses qu'on ne pourrait pas prévoir à cause des drogues, mais
c'est ça.
Enfin, tu vois des images qui sont absolument des commentaires parce qu'on voit des images d'archives beaucoup et commentées par certains acteurs. Enfin, quand je dis acteurs, c'est
participants.
On voit le créateur justement. Du festival, enfin des festivals du coup, qui revient beaucoup. On voit les gens de la sécurité, on voit les artistes qui étaient passés sur scène et on a, il y a des mots qui sont choquants, qui sont vraiment choquants et des explications de.
Les commentaires, ils ont été faits là maintenant, enfin je veux dire 2022 quand il y a eu. Voilà.
Ouais, les documentaires,
donc sur un fait qui a eu lieu il y a 23 ans avant.
C'est des documentaires, c'est les retours. c'est les mises en scène, entre guillemets, où ils sont face à la caméra, ils parlent et ils reviennent sur leur expérience.
Ils débriefent.
Ouais, voilà, c'est une sorte de débrief. Mais de pas avoir eu connaissance avant de ce festival, j'étais assez surpris. Mais parce que de tous les à côté, parce que quand même, quand on voit les groupes qui étaient passés dedans, on a Korn, on a Metallica, il me semble, Red Hot Chili Peppers, on a Fatboy Slim, après il y a plein de groupes de l'époque que je connaissais pas, on a James Brown qui a fait l'ouverture quand même de ce festival, qui avait failli pas le faire, mais je raconte pas tout, mais bref, c'est de la pure folie. Si on veut voir un peu la décadence humaine, ce festival est assez parlant. Mais c'est assez intéressant de faire un point potentiel sur si un festival comme ça se recrée maintenant. Je pense qu'il n'y aurait pas les fonds financiers, parce que le résultat financier a été un carnage total pour les financeurs, parce que quand on voit le résultat, ça n'a rien apporté de bien.
Bah, surtout s'il a fallu investir les fonds dans les réparations ou dans les...
Parce que le festival s'est fait sur un ancien camp militaire, donc je crois que c'est 2000 hectares pour faire la fête. Avec des hangars, des anciens hangars, etc. C'est assez...
Pourquoi tout ça ?
Pour faire la fête. Moi, dans ce point-là, le festival a s'est refait. C'est pas ça qui me dérange, parce que il y avait la volonté de l'esprit de Woodstock 69, et le fait que ce soit le même créateur, je trouve pas ça choquant. Et lui, il disait, c'est pas ça. Enfin, le problème, ça n'a pas été ça, ça n'a pas été la création de nouveau de ce, enfin, ça n'a pas été la réitération de ce festival, ça a été vraiment la non-prévoyance et on le voit.